Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air.
Bonjour, c'est Caroline
Oreillette,
Roux, vous
la vache
C'est dans l'air,
normande, un podcast du Salon de l'Agriculture 2024. On a déjà la migraine. Entre les défilés de politiques en campagne et d'agriculteurs en colère, l'édition s'annonce tendue. Les tracteurs défilent à Paris aujourd'hui, notamment aux Invalides, tandis que l'Élysée fait marche arrière après avoir proposé un débat qui tourne au couac. Erreur de com, nous dit-on. De la com et du show, justement, les agriculteurs n'en veulent pas et craignent que la lumière et les promesses s'éteignent une fois que le salon fermera ses portes et qu'ils retrouveront leur ferme. Concurrence déloyale, trop de paperasse, manque de considération, de revenus, de temps pour vivre. Les doléances sont nombreuses et les aides annoncées visiblement insuffisantes. Alors comment apaiser le monde paysan? Quels sont les mots qui le rongent? On va s'interroger ce soir. Agriculteurs, le retour des blocages, point d'interrogation, c'est le titre de cette émission. Vous pouvez réagir et interroger nos invités par SMS, internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous en plateau, Philippe Dessertine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur de l'Institut de Haute Finance. Je cite votre livre « Le grand basculement » chez Robert Laffont. Frédéric Danhé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain, chroniqueur pour l'hebdomadaire Marianne. Je cite votre dernier livre « Rencontre avec des écolos remarquables » chez Delachaux et Niestlé. Audrey Goutard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter à France Télévisions, spécialiste des questions de société. Et enfin, Nathalie Saint-Cricq, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Votre dernier livre « L'ombre d'un traître » est publié aux éditions de l'Observatoire. J'ajoute que nous serons au cours de cette émission en duplex avec Étienne Fourmont, qui est éleveur de vaches laitières dans la Sarthe et youtubeur, pour évoquer notamment la question des prix du lait. Merci beaucoup de participer à ce C'est dans l'air en direct, au terme d'une journée assez animée, donc à la veille du Salon de l'Agriculture. Nathalie Saint-Cricq, c'est quoi cette histoire de débat avec les agriculteurs proposée par Emmanuel Macron?
Ah, c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a plein de termes qu'on pourrait employer, entre couac, erreur monumentale, incapacité ou non-maîtrise de ce qu'on émet. Donc, en clair, Emmanuel Macron veut renouer avec son grand débat façon gilet jaune, même si c'est concentré en une journée, en un lieu. C'est en gros mettre un petit peu tout le monde face à ses responsabilités, tout le monde ensemble.
Donc, puis tous parler. Les acteurs de cette crise
agricole. Les acteurs, essayer de convaincre parce qu'il pense qu'il a une espèce de pouvoir, non pas magique, mais un pouvoir de conviction assez fort. Et bon, hier, il y a un brief. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois conseillers qui appellent des journalistes pour leur expliquer un petit peu le cadre de ce qui se passe. Et on y apprend qu'il y a une association qui est sous le vent de la terre. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, ce sont des gens qui étaient notamment à Sainte-Soline au moment où il y a eu des affrontements. Association qui a été qualifiée par le ministre de l'Agriculture ce matin, Marc Fesneau, d'une association, d'une chose inopportune comme cette convocation et qui utilise plus de cocktails Molotov, de casques et de boulons.
Gérald Darmanin, à l'époque, avait parlé d'éco-terrorisme.
Exactement. Et on avait demandé la dissolution, ou pas moi. Le Conseil des ministres avait approuvé le principe de la dissolution de cette association comme violente. Et bon, ça a été cassé par le juge administratif, mais on apprend qu'ils sont invités. Donc évidemment, la FNSEA pousse des cris, les autres agriculteurs également. Après, ils laissent un peu de temps dans la soirée et on dit non, c'est pas, ils ne sont peut-être pas invités, vous n'avez rien compris. Puis après, ce matin, on a, oui, c'est une erreur, ils ne sont pas invités. Eux, de toute façon, entre-temps, disent, de toute façon, on ne serait pas
invités. Ils n'ont pas allé, c'est ça.
La FNSEA, entre-temps, dit, bon, on ne va pas y aller si c'est un truc partout pareil, c'est un traquenard. Tout ça, c'est de la com. Donc, pour l'instant, on nous dit que le débat est maintenu demain, mais on dit bien pour l'instant, parce qu'en fait, si Emmanuel Macron vient demain pour débattre et qu'il n'y a personne, c'est-à-dire, si vous voulez, la FNSEA, c'est quand même 55% logiquement des agriculteurs. Il y a peut-être certains qui iront, mais ils n'auront pas une envie folle d'y aller, vu qu'ils apparaîtront comme des gens un peu borderline. Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui devait venir, a dit qu'il n'irait pas.
Donc, ah, je vais le citer.
Alors, avant de débattre avec Oreillette, ce qui n'est pas forcément le truc le plus productif.
Donc, Oreillette, la vache. Hein.
Je vois mal comment les choses. Donc, c'est mal parti, alors que Gabriel Attal, qui est d'ailleurs pas spécialement satisfait, comme Marc Fesneau, des initiatives de l'Élysée, s'était dit qu'ils avaient une quinzaine de jours pour déminer quelque peu et faire que le Salon de l'Agriculture, qui a un temps fort, tout ça 100 jours avant les européennes, voilà, une performance absolument remarquable.
Audrey Goutard, oui, Michel-Édouard Leclerc a parlé d'annonces de débats foireuses et que lui n'avait pas besoin de ce débat pour discuter avec les agriculteurs.
Je pense que ça l'arrange bien de ne pas y aller.
Oui.
Hein, parce qu'il aurait été de toute façon là-bas l'homme à abattre, hein, clairement, puisque évidemment vous avez bien compris que les agriculteurs sont vent debout contre la distribution, les industriels. Bref, c'est l'ennemi désigné et aller là-bas, ça serait rentrer dans l'arène, prendre la banderie et puis être le taureau de l'histoire. histoire, finalement. Mmh. Donc, je pense que Michel-Édouard Leclerc a profité, effectivement, de ce bazar qu'a très bien expliqué Nathalie Saint-Cricq pour se retirer de la partie. Et je pense qu'il n'est que le premier de la longue liste des invités côté industrie et côté distribution.
Frédéric Denhey, ça veut dire qu'il y aura effectivement la liste des participants se réduit d'heure en heure, donc pas la FNSEA, pas les jeunes agriculteurs.
Bah, peut-être que Emmanuel Macron a fait en sorte que de se présenter comme l'œcuménique qui voulait réunir tout le monde et que vous voyez dans ce pays on ne peut pas discuter parce que personne ne veut le faire.
Ah, vous pensez que c'est volontaire, que c'est une stratégie de sa part ?
Vous êtes gentil là.
Bah, je ne sais pas.
Mais que c'est organisé.
Non, mais j'essaie de trouver une raison qui explique ce non-sens. Alors, qui procède du réflexe français, quand on a un problème, on pond une loi, un rapport, ou alors on fait un grand débat. Grand débat qu'on mettra sous le boisseau aussi sec. C'est pas ça dont ont besoin les agriculteurs. Une fois encore, on les infantilise. Une fois encore, on leur fait croire que on va régler les problèmes en une journée, alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils manifestent. Et là, tout d'un coup, en 15 jours, on va régler les problèmes. Dans ce cas-là,
pourquoi? Oui, alors pas en une journée, parce qu'il y a quand même des semaines, il y a eu plusieurs annonces, plusieurs séries d'annonces.
Oui, mais leurs réclamations, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tout d'un coup, là, en 15 jours, tout se règle. C'est un peu se foutre du monde. Les agriculteurs, de quoi ils ont besoin? D'être considérés. C'est pas les considérer ça. Les considérer, c'est si le président de la République veut faire des débats, qu'il les fasse dans les départements, à l'abri des syndicats et en particulier de la FNSEA, qui ne représente plus qu'elle-même, qui ne représente plus vraiment la base des agriculteurs.
Donc déjà, vous dites, vous, de base, le salon de l'agriculture, ça ne sert à rien?
Ah, pour moi, le salon de l'agriculture ne sert à rien. C'est une espèce de parc zoologique où on va projeter nos fantasmes paysans, une agriculture paysanne caricaturale face à une agriculture industrielle avec des grosses machines. Mais c'est plus ça, le monde agricole. Moi, je trouve ça assez honteux, ce qui est devenu le salon de l'agriculture, hormis le fait que le soir, c'est devenu un barnum monumental où on s'inquiète même maintenant de l'enivrement général. C'est assez honteux. C'est pas ça, la campagne française.
Philippe Dessertine, vous partagez ce constat?
Oui, mais je pense que vraiment, par rapport à ce buzz, au fond, il nous met vraiment devant la question, quelle stratégie la France, l'Europe, peut-être même le monde, parce que quand nous évoquons là les problèmes de tension avec des ONG qui se préoccupent des questions environnementales, évidemment que l'agriculture, du point de vue mondial, est une question absolument cruciale. On était à Dubaï à la COP28, ça a été, je dirais, des débats absolument extraordinaires. Partout, dans tous les pavillons, dans tous les pays, la question agricole est maintenant vraiment au cœur de la réflexion stratégique. C'est devenu une arme en Europe. Et ça, évidemment, c'est une alerte pour le monde entier. Et c'est une arme peut-être qu'on n'a pas fini de voir se développer dans les mois et les trimestres qui viennent. Et puis, c'est une question absolument cruciale. Comment 8 milliards, 9 milliards d'humains vont se nourrir? Et là, on est en train de dire, on va faire un débat. Oui, non, ce n'est pas la question. C'est qu'est-ce que tu portes d'un point de vue stratégique? Est-ce que tu as une logique stratégique? Enfin, j'interpelle le président et on va dire l'ensemble de la question française. Qu'est-ce que tu portes comme vision du futur? Parce que ton agriculture est en train de se déliter. Parce que c'est ça quand même derrière qu'il faut voir.
C'est-à-dire donc ce que vous nous dites, c'est que là, ce sont des mesurettes qui sont annoncées, des mesures d'urgence ces 15 derniers jours, mais que ça ne répond absolument pas au problème des agriculteurs.
On attend une loi d'orientation. Vous voyez, une loi d'orientation, ça veut dire que la nation française, les représentants de l'État français réfléchissent en disant comment on se projette dans le futur, la stratégie. Cette loi d'orientation, elle est repoussée de mois en mois, de trimestre en trimestre. On n'arrive pas à avoir cette logique vers quoi on va. Et on a effectivement le monde agricole, d'un seul coup d'un seul, là, qui a dit « on est en train de mourir ». Peut-être on aurait dû faire la même chose avec la sidérurgie il y a 30 ans, parce que c'est la même chose qui se passait. Hein. C'est-à-dire qu'on importe de plus en plus la nourriture, en silence, en disant « bah oui, mais il ne faut pas s'inquiéter, la campagne française, c'est important, regarde le salon de l'agriculture comme c'est populaire ». Et c'est vrai qu'évidemment, il y a ce côté, tous les ans, vous allez avoir les caméras, le président qui normalement va passer au milieu des paysans et au milieu des vaches.
Et le concours de celui qui va rester le plus longtemps possible.
Et vous voyez, avec ces espèces de rappels du passé, de l'histoire, etc. Puis après, le salon ferme et on n'écoute pas, on ne regarde pas l'agriculture qui s'effondre alors que c'est absolument stratégique pour le futur et qu'effectivement, actuellement, on se pose la question, c'est quoi la stratégie française?
L'agriculture, c'est la sidérurgie d'aujourd'hui, comme le disait Philippe Dessertine?
Oui, effectivement, l'agriculture, c'est l'agriculture telle qu'elle est actuellement. Ça ne veut pas dire que l'agriculture, dans sa globalité, avec ses professionnels, n'a pas la possibilité, si elle se réforme, d'être au contraire le dynamisme de demain. Donc, mais je voulais revenir juste sur le... On peut, effectivement, sur la forme, peut-être que ce grand débat n'est pas la solution, mais quand même sur le fond, à un moment donné, justement, pour que l'agriculture ne tombe pas, ne meure pas, il va bien falloir que, à la fois les associations pour l'environnement et les agriculteurs, à un moment donné, se confrontent discute ensemble. En France, on n'arrive pas à discuter calmement, même sur la forme. Il faut montrer aux Français que les représentants de l'environnement et les agriculteurs, finalement, ont quelque part un même combat à mener ensemble pour l'avenir. Donc, c'est vrai que ce grand débat était, bon, sur la forme, ça fait un peu gadget, tout comme, effectivement, vous avez raison, le salon de l'agriculture. Mais sur le fond, montrer, on aurait pu imaginer aussi une discussion, un débat intelligent et productif, en tout cas d'échange d'idées, où effectivement, autour du président de la République, toutes ces gens de bonne volonté auraient été capables de se parler.
Oui, attendez, Noé, c'est possible ça?
Bah, c'est possible, moi j'en anime des débats comme ça en permanence. Ces débats existent. Enfin, dès lors que les écolos et les agriculteurs sont les deux pieds, oserais-je dire, dans les mêmes bottes, ils discutent. Mais dès lors que vous avez, pardonnez-moi, une caméra, eh bien, voilà. Les représentations syndicales aussi arrivent et c'est la tragicomédie de la vraie fausse opposition entre écolos et syndicats paysans qui jouent. Mais sur le terrain, les gens discutent. Moi je me souviens quand il y a eu la préparation de la loi Egalim, j'avais animé pour le compte du ministère certains débats en région, mais les gens discutaient et ont fait des propositions dont beaucoup ont été reprises dans la loi. Donc oui, c'est possible, mais il ne faut pas qu'il y ait de syndicats, et en particulier la FNSEA. Dès que la FNSEA, il y a une lutte de pouvoir qui arrive, et la FNSEA étouffe tout, écrase tout, et écrase même la diversité du monde agricole.
C'est-à-dire que peut-être, pour pas non plus taper que sur le grand débat, expliquer qu'il y a des élections en janvier 2025, dans les chambres d'agriculture, que de ce poids aux élections dépend les subsides qui sont attribués aux syndicats. Donc, vous avez dit tout à l'heure que la FNSEA était un petit peu débordée par la base, comme d'ailleurs ça se passe dans plein de mouvements syndicaux, où en gros ce sont des espèces de coordination de gens qui se parlent via Internet ou via autrement pour essayer de porter la lutte. Donc, ils sont obligés de se radicaliser. Ils suivent leur base. Donc, il y a ça, ce qui fait un jeu entre la coordination rurale, la Confédération paysanne, chacun étant politisé. Donc, élection janvier 25, rajoutons à ça que c'est un mouvement européen, c'est-à-dire qu'on a plein de pays, que ce soit les Pays-Bas, l'Italie, enfin, c'est en train de s'étendre, l'Allemagne, la Pologne, et qu'il y a les élections européennes chez nous, le 9 juin, et qu'on sait très bien qu'il y a que la droite et le Rassemblement national est en train d'essayer de grignoter un électorat qui, dans le temps, voter à droite ou droite modérée, mais qui est de plus en plus tenté de se porter vers l'extrême droite, et que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron essaie,
comme électoraux,
d'essayer de faire quelque chose. Mais il est vrai que autant la démarche demandant au préfet d'aller voir dans chaque département les problèmes des exploitations pour éventuellement faire sauter des normes ou faire sauter des choses qui ne sont pas correctes sans caméra, autant dès lors que vous mettez une caméra et que vous savez pertinemment que ça va être retransmis par les chaînes d'info notamment, chacun, comme sur ses positions, chacun est maximaliste. Et en gros, le réformiste avec des ONG normales, pas maximaliste, qui accepte l'idée que certains pesticides, tant qu'on n'a pas des substituts qui sont au même prix, on peut attendre un peu, et des agriculteurs à qui on peut dire aussi que ça fait quand même 20 ans, certains à la FNSEA, qui se fichent un peu éperdument, c'est une drôle de phrase, des pesticides, de l'utilisation et de l'environnement.
On va parler de tout ça et des annonces de ces derniers jours. Là, on a planté le contexte et on a évoqué donc cette tentative de débat qui est un énième rebondissement dans cette crise agricole qui a repris de la vigueur ces derniers jours. Reportage Mathieu Lignot, Léo Seux et Emmanuel Bach.
Des tracteurs dans les rues de Paris, esplanade des Invalides. Un coup de pression, quelques heures avant l'ouverture du salon de l'agriculture.
Ça fait quand même plus d'un mois qu'on est dans la rue, on attend des réponses.
Au salon de l'agriculture, vous allez voir une agriculture qui est belle, une agriculture dont on est fier, mais cette agriculture, si on ne fait rien, elle va bientôt disparaître.
Une mobilisation dans la capitale, sur fond de cafouillage politique. En cause, l'invitation du collectif écologiste radical, les soulèvements de la terre, au grand débat voulu par le président. Une provocation pour la FNSEA.
La politique, c'est autre chose que de la com ou du show. Et dans le moment dans lequel on est, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement, rien n'a été compris de leur problématique.
L'Élysée affirme qu'il s'agit d'une erreur de communication. Même le ministre de l'Agriculture se désolidarise ce matin.
Je dis que je comprends parfaitement l'incompréhension, pour ne pas dire la colère, qui s'est exprimée à l'idée que certains avaient exprimée qu'on invite les soulèvements de la terre. Parce que moi, je considère que les soulèvements de la terre, leur mode d'expression, c'est le casque, c'est le masque et c'est le cocktail Molotov.
Dernier épisode d'une semaine sous haute tension. Dès mardi, dans le sud-ouest, jeunes agriculteurs et FDSEA décident de montrer les muscles.
C'est pour savoir si vous avez fermé la bretelle ou pas.
C'est vrai. Non, mais laissez-nous le temps.
On bloque toutes les sorties. En fait. Ouais. Une grosse sortie, toutes les sorties pratiquement.
Quelques heures plus tard, la vingtaine de tracteurs bloque l'autoroute A62 une nouvelle fois.
Vous venez de le faire, les agricultures oranges.
Ah non, c'était il y a pratiquement un mois, je crois.
Johan Miramont était déjà de la partie lors de la première mobilisation ici. Pour ce céréalier, le problème est bien identifié.
Aujourd'hui, c'est clairement notre revenu, quoi. Clairement. Après, ben, comme on dit, il faut que tout le monde joue le jeu, niveau grande surface, GMS et tout ça. Mais il faut que vraiment que c'est notre revenu qui est en péril. Il faut que ça bouge au niveau trésorerie, niveau tout ça, quoi.
Au même moment, mardi après-midi, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée les représentants nationaux des syndicats. Pas de quoi calmer la colère sur le terrain.
On veut tout simplement pouvoir vivre de notre métier. On ne demande pas grand-chose. On demande un salaire entre 1200 et 1500 euros par mois.
Moi, à mon âge, j'aimerais partir en vacances, faire des sorties avec mes parents. Je peux même pas. Donc c'est tout. On craque tous. Même moi, des fois, je craque parce que j'aimerais voir mes parents. Des fois, je dis pas qu'ils sourient pas, mais j'aimerais les voir plus sourire.
Mercredi, nouvelle conférence de presse du Premier ministre. Gabriel Attal annonce un texte pour améliorer le revenu des agriculteurs.
Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été.
Et donc oui, la souveraineté agricole est notre cap.
Dans le Tarn-et-Garonne, les sourires sont crispés, les visages fermés. Ils attendaient plus.
Yann de Chaljura.
Ils ont de belles paroles devant les caméras et puis après par derrière... On sent toujours, pas du mépris, mais ils nous oublient trop. On est trop oubliés.
Ce soir, la FNSEA appelle Emmanuel Macron à annuler son grand débat. Sa venue au Salon de l'agriculture s'annonce bien agitée.
Ils attendaient plus, a-t-on entendu, à propos des agriculteurs suite aux annonces de Gabriel Attal de mercredi. Le gouvernement qui a promis aussi 400 millions d'euros d'aide aux agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils attendent d'autre ? Concrètement.
Je crois qu'il faut vraiment le redire, ce ne sont pas des mesures structurelles. Alors le Premier ministre a dit on a 62 types de mesures et ça y est, c'est lancé. Non, ce ne sera pas suffisant. C'est répondre là tout de suite en disant le fait que peut-être le gasoil qui est utilisé, il faut peut-être regarder pour diminuer les taxes, etc. Les questions sur les transmissions. Mais comme le dit, comme le disent deux personnes là, dans le reportage, nous n'avons pas des revenus suffisants. C'est-à-dire, il faut rappeler quoi, le revenu moyen est en dessous du SMIC pour beaucoup d'agriculteurs avec 55 heures de travail par semaine. C'est-à-dire, c'est quelque chose, en effet, qui n'est pas viable, qui signifie que le métier d'agriculteur peut devenir quelque chose qui n'intéressera plus. C'était aussi intéressant de voir là le père et sa fille, c'est-à-dire là la question de la transmission, la jeune fille.
On va en parler tout à l'heure.
J'ai pas envie quoi. Donc là on voit bien que on est avec une problématique structurelle dans ce métier, dans cette filière, dans l'ensemble de cette activité. Et cette problématique structurelle, elle va pas se régler d'un coup de baguette magique. Alors c'est pour ça que c'est compliqué quand on parle de tout cela, parce que vous avez plein de choses. On va dire ah oui, il y a les normes. Alors ça, c'est évident que la question des normes. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, les préfets qui sont en ce moment avec 2500 demandes de révision des normes. Mais quand on voit autant, on dit en réalité, il y a un problème structurel beaucoup plus profond.
Il y a plus que ça. C'est-à-dire que dans les témoignages qu'on a entendus, on a l'impression que quelles que soient les annonces qui pourraient être faites dans les jours qui viennent, ils n'y croient plus.
Ils n'y croient plus à Paris, à Bruxelles, aux journalistes, aux politiques. Ce que vous disiez est très juste. Moi, je suis né dans une ville ouvrière qui a été dévastée par la désindustrialisation. Et je vois la même chose. C'est des gens qui ont l'impression d'être totalement à part, oubliés, méprisés, déconsidérés. En fait, même pas considérés du tout. Ils n'existent plus. Ce sont des objets de pollution, des objets de production. Ce ne sont plus des sujets sociaux, des gens qui existent. Et derrière la récrimination sur l'argent, enfin, dans une société de marché, on est à peu près, la valeur que l'on se donne correspond à peu près au prix auquel on vend les choses. Et la plupart des agriculteurs vendent sous leur coût de production. Mmh. Et la quasi-totalité des agriculteurs, notamment dans l'élevage, la totalité de leur résultat net correspond exactement à ce qui touche de la Commission européenne. Et plus vous avez des agriculteurs dans une situation compliquée, notamment les éleveurs bovins, ils sont à 128%, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus que ce qu'ils... je ne trouve plus le terme économique. Bref, Enfin, imaginez ce qui se passe dans la tête des agriculteurs qui ne vivent que de l'argent public, alors qu'ils sont censés être des chefs d'entreprise. Donc tant qu'on ne réglera pas ce problème... Et régler ce problème,
on n'avancera pas.
On n'avancera pas.
On va revenir sur la question des revenus. On a une question de téléspectateurs. À l'heure des économies budgétaires, Emmanuel Macron a-t-il autre chose que de bonnes paroles à distribuer aux agriculteurs, Nathalie Saint-Cric?
Plus que des bonnes paroles. Alors, c'est vrai que ce qui a été fait en urgence, c'est quelque chose qui peut sembler. Il peut y avoir du court terme et puis des choses qui doivent être faites le long terme. Le long terme, on s'en est fichu depuis 20 ou 30 années. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du revenu des agriculteurs, il a quand même baissé de 40% dans les 30 dernières années. Donc, il n'y a pas beaucoup.
Il est à 1475 euros bruts par mois et un agriculteur sur 5 exerce une seconde profession.
Exactement. Donc, il aurait peut-être fallu s'en préoccuper un petit peu plus, surtout qu'aujourd'hui, et comme tout le monde, l'évolution de la société, il n'y a personne n'envisage de ne pas partir en vacances. Personne n'envisage de travailler 18 heures par jour et personne n'envisage... Donc en gros, ils ont vu passer le train de la société sans pouvoir rien faire. Mais il y a une problématique supplémentaire, indépendamment quand même des quelques efforts qui ont été faits. C'est pas forcément rien sur les normes, sur la jachère, sur tout... Bon, c'est qu'il y a l'échelon européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Alors, qu'on surinterprète, en clair, qu'on en rajoute pour faire les bons élèves de la classe par rapport à l'écologie, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on est en train de désurinterpréter pour revenir à l'échelon exigé en Europe. Mais voyant la crise agricole qu'il y a dans toute l'Europe, on peut imaginer, c'est l'objet en ce moment de nombreuses réunions, que sur un certain nombre de choses, on va baisser les difficultés pour eux. Mais à terme, c'est vrai qu'il faut repenser le système.
Et exemple, sur la loi, les annonces qui ont été faites sur la loi Egalim, vous allez avoir, je ne sais pas, ça va être la troisième, la quatrième loi Egalim ?
Troisième
loi Egalim.
On a dit qu'il y aurait plus de contrôle, on a dit, mais on n'a pas découvert qu'il y avait des centrales d'achat européennes qui achetaient et qui ne pouvaient pas garantir les prix. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans le reportage qui aussi les préoccupe, c'est la retraite.
Bien sûr.
Puisque la retraite des agriculteurs, dans la loi de 2023, en janvier, a indiqué que pour les retraités, ça serait calculé sur les 25 meilleures années, alors qu'aujourd'hui c'est sur toute la carrière, et pour l'instant ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc si vous rajoutez de leur vivant, si j'ose dire, plus les réversions, on a des femmes d'agriculteurs qui ne touchent rien, plus des retraités agriculteurs qui n'ont rien. Donc ça, c'est des choses de base. Mais pour répondre à la question sur on n'a pas d'argent, oui, on n'a pas d'argent.
Donc,
ce dont on parle là tous, c'est finalement ce que l'on retrouve dans toutes les zones rurales, dans plusieurs professions. Regardez par exemple les médecins de campagne qui travaillaient H24 avec des gardes, etc. Leurs successeurs ne veulent pas le refaire. C'est exactement comme les enfants d'agriculteurs. Quand on parle effectivement d'une paupérisation avec un manque de revenus, on ne se paye pas, mais quand même on continue à travailler. Là aussi, on le retrouve dans plein de professions. En fait, c'est l'abandon des zones rurales pendant une trentaine d'années. Et comme vous le disiez, ça ne se répare pas comme ça. Finalement, on peut leur faire toutes les propositions qu'on veut, et tant mieux si elles fonctionnent. Mais avant tout, il y a une énorme plaie. Et le temps que cette plaie cicatrise, il va falloir mettre beaucoup de baume, y compris psychologiquement, avec une reconnaissance même de leur statut, de ce qu'ils sont, une reconnaissance des zones rurales. Je vous rappelle encore qu'il y a des zones blanches où on ne téléphone pas, on n'a pas Internet, etc. Tout ça, c'est un ensemble.
Mais on comprend qu'on est sur le temps long, que ça va prendre des années. Mais à court terme, quand, par exemple, le Premier ministre place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la France, au même titre que la sécurité ou que la défense, est-ce que c'est une manière aussi de reconnaître davantage, de répondre à ce besoin de reconnaissance des agriculteurs, Philippe?
Alors oui, bien sûr, et c'est absolument crucial, parce que ce qu'on évoque là, effectivement, c'est de dire, oui, ben, après tout, ça meurt à petit feu, mais ça ne nous concerne pas, ou c'est pas très très grave. Je le répète, je pense qu'il y a une prise de conscience, finalement, il y a peu de temps, que c'est stratégique, et d'ailleurs le Premier ministre a utilisé le terme de souveraineté alimentaire, que nous n'avons pas. Alors, on est un des pays européens qui l'avons le plus, mais on se rend compte, et je le répète, on a eu l'embargo sur le blé ukrainien, sur l'ensemble de la Méditerranée, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de pays, en fait, meurent de faim très très vite. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette logique de dire, oui, mais enfin, bon, l'agriculture, c'est 3% du PIB. Oui, mais si t'as pas ces 3%, les 97% autres, tu les auras pas. Hein. Si tu nourris pas les gens, c'est absolument vital. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de ça, finalement, il y a peu de temps, et là, c'est vrai que quand on évoque l'ensemble des politiques au fond, quelles sont les politiques véritablement qui arrivent de zones de campagne? Qui connaît le monde agricole véritablement, on va dire, dans nos premiers ministres? Le dernier, oui, c'était Jacques Chirac, c'est sûr, hein, lui qui avait une espèce de fibre naturelle vers la campagne. Mais Jacques Chirac, beaucoup de jeunes gens, on se souvient même plus qui c'est. Hein, donc ça veut dire effectivement qu'on a eu pendant des années ce désintérêt absolu de ce secteur qui soudain apparaît comme stratégique. Donc on dit, ah oui, il faut le sauver. C'est-à-dire, le discours du Premier ministre, c'est dire, ah non, non, mais en fait, c'est très important. C'est même pas comme les médecins de campagne ou à la limite les zones blanches. Là, attention, on peut pas se permettre de perdre ça. Puis quand vous dites, ah oui, mais si on se permet pas, tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois effectivement effacer 30 ans de non-politique, 30 ans de mode de fonctionnement dans lequel on a laissé tout ça partir. Et là, d'un seul, on se dit, au fait, on fait comment? Et c'est la question stratégique. Et là, évidemment, que le grand débat, non, c'est pas grand débat. C'est vraiment dire, on doit avoir une vraie réflexion au plus haut niveau de l'État en disant, on engage quoi de différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant?
Et en plus de tout ce que vous venez de dire, il y a un paramètre très important, ce sont les injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on a dit non très longtemps, développez-vous pour être productif. Donc effectivement, des grandes fermes avec des grands champs, etc. Et les agriculteurs se sont endettés. Et dans le problème aujourd'hui des revenus des agriculteurs, vous avez l'endettement. Alors il y a l'endettement parce qu'on s'achète des belles machines, parce qu'on est un gros céréalier et ça va bien. Et puis il y a le surendettement d'énormément de centres de production agricole où effectivement ils se sont endettés en pensant, parce qu'on leur disait qu'il fallait être gros pour être productif, et ils se rendent compte que finalement leur ferme est trop grosse. Mmh. Et aujourd'hui, toute la problématique, il y a des associations qui travaillent dessus, c'est d'essayer de trouver pour des jeunes agriculteurs des fermes à visage humain, avec des territoires à taille humaine d'une dizaine d'hectares, parce qu'aujourd'hui
ça coûte trop cher de transmettre et ça coûte trop cher d'acheter. Et c'est l'association Terre de Liens notamment, mais on va parler de la transmission dans quelques minutes. Il faut davantage manger français, nous dit aussi le Premier ministre. On promet une origine. L'Origine Score, pardon, comme le Nutri-Score. Plus de contrôles. Il y a eu 10 000 contrôles, 1000 établissements contrôlés, 372 qui ne respectent pas les règles, a indiqué Bruno Le Maire. Déjà, est-ce qu'on connaît quel type de fraude quels types de fraudes qui ont été.
C'est la fraude traditionnelle, plutôt c'est de la tromperie, c'est-à-dire vous avez un plat préparé avec du poulet origine européenne ou France, mais en fait, le poulet, dès lors que c'est un produit transformé, les origines ne sont pas certifiées sur tout ce qui concerne. Tout ce qui est introduit dans le plat transformé. On peut avoir du poulet qui vient du Brésil, de Thaïlande. Oui. Voilà. Alors, des contrôles, c'est très bien, mais dans un État qui, depuis 30 ans, ne cesse de dire que les fonctionnaires, il en faut de moins en moins, que du contrôle, il en faut de moins en moins, et avec un Premier ministre qui met en pâture les agents de l'Office français de la biodiversité chargés de contrôle. Donc, l'OFB, c'est pas bien contrôler si on plante bien une haie ou si on la détruit pas, ça c'est pas bien. Et par contre, il faut contrôler un magasin. Il y a une espèce de paradoxe au sein de l'État. Mais après, l'histoire de la souveraineté alimentaire, c'est déjà dans le code rural. Hein. C'est l'article L1, alinéa 1, c'est déjà dans le code rural. Ça existe déjà. Donc ça prouve que ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vraiment on veut que la nourriture, l'alimentation et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les paysages qui font qu'on a une alimentation, et la France est la plus grande diversité de paysages du monde, derrière le Brésil et la Chine, et cette diversité des paysages est liée au travail agricole, qu'on les considère comme des objets culturels et qu'on fasse comme la culture, qu'on se sorte. Alors, je ne sais pas
de quoi
qu'on se sorte du calcul des échanges mondiaux avec les produits agricoles, qu'on se sorte de cette directive de la concurrence libre et non faussée au sein de l'Europe, qu'on se sorte, qu'on évite, qu'on se sorte de tous les accords internationaux. Je vous rappelle que l'an dernier, c'était l'ami, c'était aux Échos, il disait que oui, les accords de libre-échange, c'est très bien pour l'industrie. Bon, bah, tant pis si on fait un peu moins de bœuf en France. Bah, on a tout dit. Effectivement, c'est très bien pour notre industrie, mais derrière, l'agriculture, on l'oublie. Mais l'agriculture devrait peut-être être considérée comme la culture.
Mais le Mercosur, les négociations sur le Mercosur sont abandonnées quand même, donc il y a une prise de conscience. Je voulais dire deux choses. Quand vous disiez que les agriculteurs n'étaient pas, se sentaient pas reconnus, c'est récent. Parce qu'il y a toujours eu, et il y a toujours une affection dans les sondages, une affection, une amitié, enfin une solidarité avec d'ailleurs les sondages, il y a une solidarité totale avec les agriculteurs.
91% des Français qui soutiennent.
Pourquoi les animaux, les territoires, pardonnez-moi, les prairies, les champs, les. Bon, ça c'est. Et tout le monde a un agriculteur pas très loin quand on regarde la généalogie. C'est l'arrivée de l'écologie qui a posé des problèmes, qui a balancé. Parce que Jacques Chirac a peut-être été un formidable ministre de l'Agriculture.
Le pouvoir d'achat.
Il passait sa vie. Avec la FNSEA, à ses côtés, et l'écologie, c'était pas le sujet. Donc, Cohn-Bendit, qui faisait une tribune assez récemment, disait, bah, écoutez, il va falloir savoir, juste, on est dans une mutation monstrueuse. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle à un autre. Et les jeunes, c'est pour ça qu'ils se sentent traités de tous les noms par les jeunes écologistes. Les jeunes veulent à la fois préserver tout ce qu'il peut y avoir de préservable et dont les agriculteurs sont en partie responsables parce qu'on s'y est pris tard. Les gens veulent manger français, mais pas cher.
Et voilà.
Dans une période d'inflation, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est assez logique qu'on aille vers le poulet à 3 euros, le, je ne sais pas quoi, le kilo. Non,
pardon, mais
donc
c'est
tout ça. Pardon?
Excusez-moi. Non, moi, juste,
non, mais je attendez, terminez, Nathalie.
Que la grande, et que la grande distribution, indépendamment d'un certain nombre de démagogies, de discours démagogiques, je veux dire, c'est pas des philanthropes. Ah. Et même Monsieur Leclerc qui dit, qui déclare que c'est une opération de communication, ce que veut faire Emmanuel Macron.
Et que lui discute directement avec les agriculteurs.
Voilà, voilà. Et vous il est connu pas effectivement comme étant la principale amie des agriculteurs. Donc, faut aussi voir que, si vous voulez, ça serait un peu simple de dire, il y a qu'à d'où l'idée qu'en 15 jours, ils ne pouvaient mettre que des rustines, c'est-à-dire des rustines françaises et des rustines européennes, de manière à ce qu'avec le gasoil, voilà. Mais ça ne pouvait pas être modifié radicalement, parce que ce n'est pas le moment. Je veux dire, économiquement, c'est difficile en ce moment.
Audrey Goutard.
Non, on parlait du pouvoir, je parlais du pouvoir d'achat. On parlait du poulet tout à l'heure et vous évoquiez les chiffres sur le poulet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le poulet français est acheté par les Français, c'est-à-dire dans les ménages français, 70% des poulets français sont achetés par les ménages. En revanche, c'est le poulet qui vient de pays peu contrôlés, est acheté par les industriels pour les produits transformés.
Et les restaurants.
Donc, comment ?
Et les restaurants.
Voilà, et les restaurants. Donc en fait, les Français
font cette démarche. C'est hors de
malgré effectivement les difficultés d'inflation. De pouvoir d'achat et d'inflation.
Il faut rappeler pourquoi on ne mange pas français, parce qu'on ne produit pas assez. C'est aussi clair que ça. La filière bovine, vous n'avez plus assez de viande. Alors on va dire, ah oui, il ne faut plus manger de viande. Sauf que les Français, ils en mangent toujours. Donc quand on n'en trouve pas, on en importe. Sur la filière ovine, sur le poulet, c'est la même chose. Sur les fruits, légumes, c'est encore plus tragique. Donc c'est simple, on ne mange pas français parce qu'on ne produit plus. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand l'agriculture est en train de mourir à petit feu, c'est ça. Et quand vous évoquiez tout à l'heure les accords qui vont faire le plaisir de l'industrie. Je rappelle, l'industrie française, elle est archi déficitaire, c'est-à-dire on est déficitaire en commerce extérieur. L'agriculture, avec bien entendu la viticulture, est l'un des seuls secteurs sur lesquels on est excédentaire. C'est-à-dire, en plus, on exporte, on arrive à exporter certaines productions, et dans d'autres, effectivement, on n'arrive pas à subvenir aux besoins des Français. Je veux dire, il faut bien voir à chaque fois à quel point on est dans une sorte de quadrature du cercle, et effectivement, celui qui est au bout de la chaîne, le producteur, il a du mal à s'en sortir et il dit mais je ne comprends plus du tout ce qui se passe.
Je voudrais juste qu'on reprécise quelque chose sur l'utilisation des pesticides. On a évoqué tout à l'heure cette annonce du gouvernement qui a fait beaucoup parler, c'est le changement d'indicateur qui mesure la présence des pesticides. C'était un indicateur qui était français et on va passer à un indicateur européen qui est plus souple. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement a lâché, a abandonné l'écologie pour soutenir la majorité des agriculteurs?
Écoutez, moi, je ne peux, honnêtement, sur ce sujet, je laisserai mon camarade. J'ai cru comprendre que si, à même mesure, au même moment, on utilisait l'indicateur français, il était pire que l'indicateur européen sur des mêmes données.
Frédéric Doré.
Donc, on peut imaginer que, sous prétexte d'une espèce d'égalité entre tous les pays, c'est totalement intuitivement assez logique qu'on ait tous la même mesure. Mais les associations écologistes considèrent qu'on change le thermomètre pour, en gros, que la colère des ONG soit plus faible et qu'on puisse, en gros, laisser plus longtemps faire la transition, si j'ose dire. Que cette transition qui devait se faire d'ici -50% en 2030, en gros, on donne 10 ans et puis on verra après.
C'est un recul pour l'écologie, Frédéric Doré ?
C'est surtout n'importe quoi, parce que alors le fameux indicateur... Alors, pour être très caricatural, très simple, parce que c'est très compliqué, l'indicateur européen HIR1, il mesure le danger porté par la toxicité dont cet indicateur tient compte. Le danger, c'est-à-dire le risque théorique. L'indicateur NODU, il tient compte...
Donc
du risque, c'est-à-dire de la réalité du risque, la réalité du danger pour les agriculteurs qui diffusent ces pesticides. C'est pas la même chose. Donc en fait, ils sont complémentaires. Le NODU a des défauts, HIR1 a des défauts qui ont été reconnus par la Cour européenne de justice, parce qu'il y a eu une plainte. Et ce que disent les ONG et les chercheurs, ils disent non, c'est les deux. Il faut les deux, il faut deux indicateurs, parce que chaque indicateur masque des réalités
différentes
qui sont montrés par l'autre indicateur. En fait, il faut les deux. Donc dire, on va se séparer d'un thermomètre pour le remplacer par un autre, enfin, c'est juste la démagogie absolue.
On va se projeter. D'ici 10 ans, on parle de 250 000 agriculteurs qui partiront à la retraite. Et avec toutes les contraintes dont nous parlons aujourd'hui, c'est difficile de trouver des successeurs. On l'évoquait. Jean-Joseph Mallet, lui, il n'y parvient pas. Cet éleveur de vaches et de brebis doit arrêter l'année prochaine. Mais ce fils et petit-fils d'agriculteur ne sait pas ce que va devenir son exploitation. Anne Maquignon et Diane Cacciarella l'ont rencontré pour C'est dans l'air.
Depuis 37 ans, la même routine pour Jean-Joseph Mallet.
Allez, belette.
Le même impératif tous les matins, nourrir ses 250 bêtes.
Voilà, ça fait partie de mon travail, matin et soir, tous les jours de la semaine, week-end compris, jours fériés compris. Ça fait déjà pas mal d'années que je me dis vivement la retraite, oui.
La retraite, elle pointe justement le bout de son nez. Jean-Joseph va avoir 60 ans et devrait pouvoir arrêter de travailler dans un an.
Tu donnes là et moi je donne là.
Ouais.
Mais ses filles ont refusé de reprendre l'exploitation. Alors, comment faire? La question l'obsède.
Il y a un site de la Chambre d'agriculture qui tourne pour chercher des repreneurs. J'ai pas plus de contacts que ça. Alors le sentiment, il va être simple. Actuellement, j'ai des douleurs un peu partout qui se déplacent. Un coup, c'est dans les chevilles, dans les coudes, dans les bras, dans le machin. Et j'arrivais pas à mettre un nom sur ce truc-là. Je voyais pas pourquoi, parce qu'on se tape, on avale, mais là, sans se taper, on avale. Et en fait, le mal, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété, ouais. Voilà.
La gorge nouée. Cette exploitation, c'est toute sa vie. Pour autant, Jean-Joseph comprend la frilosité des éventuels repreneurs.
Et voilà, c'est parti pour un coup de balayette dans les prairies.
250 à 300 000 euros de budget, et puis l'engagement du métier.
Là où ça devient plus compliqué, c'est si on commence à regarder notre compteur horaire. Et là, on s'aperçoit qu'on fait énormément d'heures, qu'on est payé très peu de l'heure, qu'on n'a pas de loisirs, qu'on n'a pas de vacances. Ça peut être un frein à la transmission quand vous allumez votre télévision et qu'on vous parle que de 35 heures de congés payés, de vacances au sport d'hiver, de vacances au bord de la mer. L'hiver, nous, on est dans les agnelages et les vélages et l'été, on est dans les foins. Donc, faut faire abstraction de tout ça.
La journée d'un agriculteur ne s'arrête pas à la descente de son tracteur.
Mémette.
Tous les jours, Jean-Joseph passe une heure au moins à faire des papiers.
16,39, 16,40.
Dans son viseur, la multiplication des normes françaises et européennes.
On est là normalement pour travailler la terre. Et on se retrouve envahi de papiers à tous les niveaux. Là, j'ai encore des dossiers derrière. J'ai mon dossier apprenti. J'ai un dossier notaire. Je sais pas, je pense qu'il faut tout remettre à zéro et réécrire le livre. Hein, parce que là... À force de faire des lois, il y a un moment où il faut arrêter, on referme le bouquin, on rouvre une nouvelle page et on réécrit quelque chose de propre. Parce que là, je pense qu'ils sont partis à la dérive complète et j'attends rien, absolument rien de l'État.
Il n'y a plus de but. Aujourd'hui, quel but on a ? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on fait de l'agneau. Finalement, on nous explique que l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande a un impact carbone moins important que ce qu'on fait en France. OK, bon, ben on va arrêter l'agneau. Après, la viande va venir d'Argentine ou d'ailleurs. OK, on va arrêter de faire de la viande. Quel but on a après ? On ne sait plus où aller, en fait.
Le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer en France. 496 000 selon le dernier recensement. La moitié d'entre eux devraient partir à la retraite dans les 5 prochaines années, sans forcément avoir trouvé de successeur.
C'est terrible, hein, ce témoignage d'agriculteur. Est-ce que c'est à l'image de finalement ceux que les reporters de France Télévisions peuvent croiser ces dernières semaines, Audrey?
Oui, écoutez, nos reporters qui étaient vraiment sur le terrain, qui ont parlé avec des agriculteurs, évoquaient exactement ce qu'on entend. Ce monsieur, c'est un mélange de plein de choses, d'injonctions paradoxales. Il explique, bah voilà, je faisais de l'agneau, on m'explique que l'agneau de Nouvelle-Zélande coûte moins cher, on m'explique qu'on va prendre du bœuf d'Argentine, et ben j'arrête le bœuf d'Argentine, et puis que transmettre à ma fille, et puis est-ce que je dois tout transformer en céréales plutôt que de rester sur l'élevage. Bref, on voit bien le désarroi de cet homme qui finalement s'est complètement engagé depuis son plus jeune âge et qui travaille. C'est étonnant ce qu'il dit. Il dit, on regarde la télévision, on voit des gens qui partent en vacances les 35 heures, etc. Mais oui, voilà, c'est tout ça. En fait, on sent qu'ils en ont gros sur la patate et c'est pour mille raisons différentes, mais qui font une déprime globale, qui crée cette déprime globale. Et effectivement, statistiquement, on voit bien, hein, les suicides, c'est cette profession. Hein, le taux de suicide est énorme dans cette profession. On voit bien aussi le célibat. Les agriculteurs sont souvent célibataires et seuls dans leur ferme. Bref, c'est une vie de chien pour certains. Mais attention, il y a ceux qui partent en vacances, etc. Le problème aussi, c'est la disparité de cette profession. Et on ne parle pas d'une profession, mais de 1000 professions différentes.
Mmh. Oui, il y a une disparité énorme. Hein, la disparité de revenus, elle est de 1 à 6 en moyenne dans le monde agricole. Mais ce qu'on voit là, alors, je connais des agriculteurs qui vont bien, et même des éleveurs bovins qui vont même très bien. Mais c'est souvent ceux qui ne sont qu'à l'herbe, qui n'achètent rien à l'extérieur, donc qui sont indépendants des marchés, finalement. Mais derrière tout ça, oui, il y a un désarroi, un fatalisme. Une peur, en fait c'est la trouille qui n'est plus rien dans les campagnes. La trouille d'avoir des campagnes vides, sans les agriculteurs, sans les éleveurs notamment, il n'y a plus de paysage. Donc c'est plus seulement la fin de la viande, la fin de l'élevage, c'est la fin de paysage, c'est la fin de cette diversité de paysages, j'ai employé des grands mots, qui fait la France et qui fait que les touristes viennent en France. Si les agriculteurs disparaissent, qui va s'occuper des paysages? Personne.
On va continuer à parler de la question de la transmission dans un instant, mais d'abord, Nathalie Saint-Cricq, on a une information de
l'annulation du grand débat sur Twitter tout à l'heure. Alors, je vous lis, hein, les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. Donc,
c'est Emmanuel Macron qui
s'exprime. J'inviterai demain matin tous les syndicats agricoles avant l'ouverture officielle du salon. Je serai là pour l'ouvrir et irai au contact de tous ceux qui veulent échanger, comme je le fais chaque année, fier de notre agriculteur et de nos agriculteurs.
Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une discussion hors caméra pour reprendre.
Oui, en gros, à partir du moment où il y va et qu'il y aura syndicat, après, discuteront avec lui ceux qui vont le veulent venir, c'est quand même un aveu de faiblesse assez... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de solution. Y aller, c'était s'exposer à des huées, et finalement, le ridicule, parce que le fameux ring où tout le monde devait discuter, si vous voulez, alors c'est pas un ring de boxe, mais enfin, ça en serait peut-être devenu un, et c'était pas possible, donc c'était à sagesse. Enfin, je pense que la sagesse aurait dû venir encore plus tôt, parce que je pense que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout, mais c'est quand même, on a l'impression qu'ils perdent la main. Et que le Premier ministre, pour le coup, qui a essayé, et Marc Fesneau, de faire tout ce qu'il pouvait faire très rapidement, se sont retrouvés finalement totalement handicapés, notamment à cause de cette histoire de soulèvement de la terre, qui n'est pas qu'une anecdote, qui est aussi une mécompréhension, voire une incompréhension du monde agricole et des agriculteurs, manifestement.
Après, Nathalie Saint-Cricq connaît bien mieux que moi, effectivement, le parcours d'Emmanuel Macron, mais chaque année, il se prend des œufs sur la tête en même temps. On a l'impression
qu'il... Là, ça n'était pas un œuf.
C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il aime cette confrontation avec
les agriculteurs. C'est sa méthode. Mais ça, il y a des gens qu'on ne peut pas... les images de Sainte-Soline et les gens qui traitent d'assassins les agriculteurs ou les gens qui ont besoin d'eau et tout ça, les radicaux comme ça, on ne peut pas demander la dissolution d'une association comme si elle était un danger public, et puis on peut encore moins avoir un ministre de l'Agriculture qui dit je les comprends, enfin c'est n'importe quoi.
Ah, ça c'est sûr.
On évoquait et on était en train de parler de ce mal-être qu'on a ressenti très fort dans le reportage. Quand on voit ses parents travailler du matin au soir sans prendre de vacances, c'est vrai que ça ne donne pas envie de reprendre la ferme, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi c'est si difficile de transmettre? Ça coûte voilà, beaucoup exactement. D'argent.
Il y a un problème de fiscalité très lourd, c'est-à-dire, si on va très simple, on va dire ça coûte moins cher de vendre à un fonds chinois que de transmettre à ses enfants. Et ce qui fait qu'effectivement, ce que vous voyez, c'est qu'on est avec une sorte de recul des générations à venir par rapport simplement au coût que va représenter le prix du terroir. Alors après, je crois qu'il faut vraiment dire, le nouveau
donc,
modèle
dire,
agricole...
Pardon, excusez-moi, mais à la fois la ferme... Les outils, le matériel
agricole, tout ça... C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire, le matériel, quand on évoquait tout à l'heure, les tracteurs, etc., les nouveaux, c'est-à-dire que l'agriculture est en train de changer de modèle. Elle est en train d'inventer. C'est vrai que là, par rapport à tous les débats qu'on a, on a l'impression que les agriculteurs disent « mais j'ai pas le temps de me préoccuper ». C'est pas vrai, quand même, hein, parce que l'agriculteur, tous les matins, il est sur la terre et il voit bien ce qui se passe. Croyez-moi, le réchauffement climatique, s'il y a zéro personne qui le conteste, c'est selon les agriculteurs, parce qu'ils le voient, concrètement. Ils ont, on va dire, les statistiques. Ouais. Donc, ils vont être obligés... Ils sont obligés d'investir massivement. Et cet investissement, évidemment, va coûter beaucoup. Si vous avez déjà votre revenu qui est complètement grévé simplement par la reprise d'une exploitation telle qu'elle, vous dites, je ne vois pas comment je vais m'en sortir.
Et l'endettement.
Et par endettement, évidemment. Donc, moi, j'ai créé une chaire il y a 12 ans en financement de l'agriculture. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde me disait, mais c'était n'importe quoi l'agriculture. Je ne suis pas spécialement agronome, mais j'étais persuadé déjà que c'était un sujet stratégique. Et je suis persuadé qu'on l'est encore plus aujourd'hui. Et donc, l'agriculture se réinvente. réinvente. Et il faut dire que quand elle se réinvente, et vraiment il ne faut pas nier cette image qu'on a eue de cette personne, de cet éleveur dont on sent, il dit mais je n'attends plus rien, quoi. Ce côté désabusé.
Il n'y a plus de but.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des agriculteurs, il y a énormément, moi j'en rencontre beaucoup sur le terrain, qui sont des gens passionnés, qui adorent leur métier. Il faut dire aux jeunes gens aussi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Vous êtes au contact de la nature au quotidien. Vous êtes en train de nourrir déjà vos compatriotes et vous êtes, je crois qu'il faut aussi avoir ce discours enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on est avec un certain nombre de difficultés, on a une obligation stratégique et quand même rappeler les lycées agricoles quand même sont pleins, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui disent « mais j'ai envie de faire ce métier-là ». Et donc la seule chose qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est les moyens, et en particulier les moyens financiers, pour que les jeunes qui aient envie de s'installer, de reprendre les exploitations de leurs parents, ou de prendre une exploitation alors qu'ils n'étaient pas du monde agricole, eh bien, aient les moyens normaux de le faire.
Oui, mais une exploitation à taille humaine, sauf que il y en a peut-être de moins en moins de petites fermes.
Alors 70 hectares, la moyenne française.
Alors que la surface agricole reste la même. Il y a de plus en plus de grandes fermes et de gros groupements.
Quand vous avez de moins en moins de monde, évidemment, vous avez cette problématique qui se fait. Mais on est très très loin, par exemple, des tailles des fermes agricoles que vous pouvez avoir aux Pays-Bas ou bien entendu aux États-Unis. On a gardé quand même, on va dire, une taille qui est relativement humaine en moyenne en France. Donc on a une agriculture encore, qui est la première agriculture européenne, qui est encore à taille humaine. Donc c'est quelque chose aussi qui peut intéresser des jeunes gens en disant la seule chose évidemment c'est qu'il faut que ce soit viable, c'est-à-dire qu'on doit réinventer complètement le modèle pour qu'il soit à la fois de développement durable et à la fois viable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'investissement, mais ça veut dire évidemment que les gens qui sont au cœur du modèle, parce que c'est d'abord un modèle humain, bah, il faut qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça c'est évidemment l'élément primordial.
Juste trois chiffres, hein. En 30 ans, la population agricole a été divisée par deux, le nombre d'exploitations a diminué de 60% et la surface moyenne d'une exploitation a augmenté d'un facteur 2,5, ce qui fait que le revenu agricole a augmenté et qu'en même temps, pour atteindre une taille critique, économiquement critique, les fermes s'agrandissent de voisin à voisin, ce qui fait qu'elles coûtent de plus en plus cher. Mais ce que vous disiez, je rebondis là-dessus. Les jeunes, ils sont attirés par quoi? Ils voient que l'agriculture de demain, on va dire l'agroécologie, elle est à la fois sensible, très agronomique, très pédologique. Les agriculteurs doivent revenir sur la terre et en même temps très technique. Parce que cette nouvelle forme d'agriculture, au sol, où on laboure très peu, où on couvre les sols en permanence, en fait, elle a besoin de matériel très complexes, qui sont encore rares et qui coûtent très cher. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on revient toujours à la même question.
La plupart des exploitants qui ont abandonné le métier ces dernières années sont des éleveurs, notamment bovins, avec des conditions de travail exigeantes, parmi les spécialités les moins rémunératrices. Et on va justement rejoindre l'un d'entre eux. Bonjour Étienne Fourmont, vous êtes éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà quel est votre quotidien? Combien de bêtes avez-vous?
Alors moi, sur la ferme, j'ai 120 vaches laitières. Donc, ça a été très bien dit tout à l'heure, les exploitations agricoles, globalement en France, grossissent plutôt. Mais on a la chance quand même d'avoir une agriculture en France familiale, à taille humaine, où on arrive à en vivre avec une famille, un couple ou deux couples. Souvent, c'est le père-fils, c'est la tradition, on va dire un petit peu. Sinon, c'est souvent cousin, oncle, grands-parents, enfin grands-parents. Mais on a vraiment cette chance-là en France d'avoir des fermes à taille humaine et familiale.
On entendait, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le reportage avant, la détresse d'un agriculteur qui ne trouve pas de repreneur, qui est à un an de la retraite. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez chez vos collègues? Et vous, qu'est-ce qui vous pèse le plus dans votre quotidien?
Alors oui, j'entends évidemment des collègues qui ont du mal à s'en sortir et c'est des difficultés. On a aussi heureusement une agriculture qui s'en sort. C'est peut-être pas la majorité, mais moi je sais que éleveur de vaches laitières, moi je m'en sors plutôt bien. J'ai des vaches laitières plutôt dans un système conventionnel, polyculture élevage Grand Ouest, donc un peu de pâturage, du maïs en silage, de l'ensilage d'herbe. C'est relativement classique et je m'en sors bien, je ne suis pas trop malheureux à ce niveau-là. Mais oui, il faut qu'on défende en France cette agriculture à taille humaine et il faut qu'on puisse installer des jeunes. Ça veut dire, installer des jeunes, ça veut dire aussi comprendre tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous complique dans l'installation des jeunes, c'est-à-dire la surcharge administrative. On a en France une surcharge administrative très, très, très pesante, une surcharge que j'appelle norme environnementale qui va être aussi très, très pesante. Et nous, quand on est agriculteur, on essaye de trouver un équilibre entre l'environnement, travail avec le sol, avec les animaux, entre les investissements, soit en matériel tracteur, matériel de travail du sol, matériel d'élevage aussi. Moi, j'ai des robots de traite, donc qui m'enlèvent une grosse charge de travail. Et on essaye de trouver cet équilibre-là entre les attentes sociétales, les attentes environnementales, le revenu des producteurs. Et c'est très, très compliqué. Et si on pouvait un peu nous simplifier toute cette surcharge administrative et cette surcharge environnementale, on installerait beaucoup plus de jeunes.
Et on entend votre demande. Cette semaine, vous évoquez les revenus. Cette semaine, plusieurs centaines de manifestants ont envahi le siège de Lactalis, qui est le numéro un mondial du lait à Laval, qui selon eux ne paye pas assez les producteurs. Justement, ça se passe comment chez vous, les négociations ?
Alors, les négociations chez moi, c'est toujours un peu le problème. C'est-à-dire qu'on est, dans mon groupement d'éleveurs, on est 800, enfin 750-800 éleveurs. Et on discute avec un seul acheteur. Donc, c'est très compliqué quand on est très nombreux, 850-800 éleveurs. C'est très compliqué de discuter avec un seul acheteur qui a le monopole en plus. C'est-à-dire que nous, quand on est agriculteur éleveur de vaches, tiens, mon grand-père livrait déjà à l'entreprise avec laquelle je travaille aujourd'hui. Mon père travaillait toujours avec l'entreprise avec laquelle je travaille aujourd'hui. C'est très compliqué en lait de pouvoir changer d'entreprise. Alors, c'est moins vrai depuis 4-5 ans parce que le marché s'ouvre un peu et on a, CQLP, c'est qui le patron, qui a un peu bouleversé un peu cette chose-là dans le sens où il a cherché l'autre producteur de lait. Donc, ça a permis de s'ouvrir un petit peu. Mais le milieu est très fermé. On ne peut pas changer de laiterie du jour au lendemain. C'est très compliqué. Donc, c'est vrai que ne faisant pas la facturation, ce n'est pas moi qui fais la facture du lait que je vends. C'est ma laiterie qui me fait la facture du lait que je lui vends. Donc, c'est très, très compliqué de changer de laiterie et d'avoir un marché un peu en concurrence. Donc, il faut aussi que les politiques nous aident par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plus de souplesse avec les industriels. Et après, les industriels, eux, c'est encore refermé, c'est-à-dire que nous, on va être 800, les industriels vont être quelques centaines laitiers et on va avoir 8 centrales d'achat derrière qui vont acheter. Donc, c'est le goulot d'étranglement et à la fin, nous, on ne touche plus rien, quoi.
Merci. Écoutez, merci pour la démonstration, Étienne Fourmont, et merci d'avoir témoigné dans C'est dans l'air aujourd'hui. Effectivement, on sent bien que c'est extrêmement compliqué sur la question du lait. Il y a un prix minimum aujourd'hui sur le litre de lait
pour Non. Vous pouvez avoir le prix qui baisse et vous pouvez avoir aussi bien, je dirais, quand vous avez des surproductions, le prix du lait qui s'effondre et qui va faire que, évidemment, l'éleveur est beaucoup moins rémunéré, ou au contraire, à certains moments, le prix qui va monter parce qu'on aura une tension du point de vue. Alors, on est plutôt dans une logique on va dire de production là très largement correspondant à ce qu'on attend. Donc on est avec cette problématique qu'évoquait monsieur, c'est-à-dire entre, je dirais, plusieurs structures, plusieurs étages, et à la fin, effectivement, avec quelques grands acheteurs, on va dire, qui font un peu le marché. Ce sont ces éléments-là. Alors, on évoquait tout à l'heure Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc avait dit « Je suis en train de faire l'Airbus » de la distribution, c'est-à-dire qu'il a créé une structure avec un géant allemand pour dire on va être de plus en plus puissant, on va pouvoir évidemment acheter de plus en plus. Alors le problème, c'est que ce n'est pas logé en France et que donc on voit bien que les grandes centrales d'achat aujourd'hui, elles sont aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne. Et donc, bien sûr, quand même, on a cette idée probablement d'échapper un tout petit peu à la législation française et d'avoir un poids. Là, c'était exactement ce qu'on disait, quoi. C'est-à-dire vous avez 850 avec une seule personne qui rachète, puis un certain nombre de groupes industriels. Puis à la fin, si vous avez trois centrales d'achat, en fait, ce sont elles les plus puissantes.
C'est ce qu'il disait. Et donc
là, bien entendu, très grande difficulté. Quand il dit le politique doit nous aider, ça fait aucun doute, en tout cas du point de vue européen, de dire attention là, dans la manière dont on va gérer, on va dire, l'ensemble de la pyramide.
Alors une grande partie, on le voit et on le dit, de cette crise agricole, des réponses à cette crise se trouvent à Bruxelles, car la colère du monde paysan ne concerne pas évidemment que notre pays. De l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par l'Allemagne ou la Pologne, les agriculteurs disent leur inquiétude, notamment face à la concurrence déloyale des produits ukrainiens soutenus en raison de la guerre, sauf que la guerre n'en finit pas. Constance Meyer, Stéphane Lopez.
Sur les routes polonaises, des files ininterrompues de tracteurs. 200 points de blocage paralysent les axes le long de la frontière avec l'Ukraine. Un coup de force des agriculteurs polonais, cela fait des mois qu'ils dénoncent une concurrence déloyale.
Nous craignons que des quantités incontrôlées de produits agricoles n'entrent en Pologne.
Des produits agricoles ukrainiens. Depuis le début de la guerre, l'Union européenne a favorisé les exportations de son voisin, déstabilisant le marché polonais et européen. Alors qu'ils n'arrivent plus à vendre leur production, les agriculteurs demandent l'arrêt de ces échanges.
Les agriculteurs viennent de toute l'Europe pour nous voir. Ils viennent de France, d'Allemagne et de Belgique. Ils ont remarqué cette situation difficile, cette situation de merde qui leur arrive aussi.
En 2 ans, les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne ont par exemple bondi de 45% pour les céréales, 84% pour la volaille. La crise agricole s'étend aux autres pays frontaliers de l'Ukraine, faisant craindre à Kiev un blocage total de ses marchandises vers l'Europe.
La situation, malheureusement, démontre chaque jour l'érosion de la solidarité. Ce qui se passe à notre frontière occidentale, la frontière avec la Pologne, cela ne peut être perçu comme quelque chose de normal.
La crise prend de l'ampleur et inquiète. À Bruxelles, à 2 pas du Parlement, c'est une réunion sensible qui se tenait hier. L'invitation a été lancée par une organisation regroupant les syndicats agricoles des 27 pays européens. À sa tête, Christiane Lambert, ancienne patronne de la FNSEA.
Il y a une actualité très intense aujourd'hui à propos de l'agriculture, avec des débats au niveau européen, des textes qui continuent à avancer, des difficultés par rapport aux exportations ukrainiennes.
Alors que la Commission européenne cherche des solutions à la crise, ces professionnels esquissent leurs propositions. Le dossier est brûlant. La réunion se poursuit sans la présence de notre caméra.
Au début, tout le monde pensait que la guerre allait durer quelques mois. Ça fait déjà 2 ans et ça n'est pas terminé. Le secteur le plus impacté, c'est l'agriculture. Donc, économiquement, nous ne pouvons pas porter sur nos seules épaules d'agriculteurs et de structures économiques agricoles l'impact de cet effondrement des cours et de ces perturbations énormes de flux commerciaux. La solidarité, oui, mais c'est la Commission européenne qui doit mettre les moyens pour accompagner les agriculteurs qui en sont victimes.
Invité justement ce jour-là à la table des discussions, le commissaire européen à l'agriculture, polonais, il souhaite reconsidérer le système de soutien à l'Ukraine et revoir les règles d'importation.
Nous devons aider l'Ukraine et l'encourager à retourner sur les marchés traditionnels qu'elle avait avant. En Asie, en Afrique, en Chine, en Inde, en Indonésie et en Égypte. C'était les principales destinations des exportations ukrainiennes. Nous devrions encourager l'Ukraine à retourner sur ces marchés là où la Russie les remplace aujourd'hui.
Aujourd'hui, les produits ukrainiens arrivent sur le marché européen sans respecter les normes en vigueur. Ce représentant d'agriculteurs roumains redoute que l'adhésion de l'Ukraine se fasse, elle aussi, dans des conditions inégalitaires.
Nous devons bien étudier l'impact d'une adhésion et quelles mesures doivent être appliquées pour ne pas affecter les nouveaux pays de l'Union européenne, ni les anciens, ni le reste. Nous devons nous protéger d'abord et ensuite s'occuper d'eux.
Comme il y a 3 semaines, ce lundi, les agriculteurs viendront une nouvelle fois crier leur colère sous les fenêtres du Parlement européen, avec l'espoir de se faire entendre, alors qu'une réunion des ministres européens de l'agriculture doit se tenir.
Oui, il y a aussi les agriculteurs espagnols qui pourraient organiser des opérations de blocage à la frontière avec la France. Donc ça veut dire que le mouvement pourrait encore s'amplifier dans les semaines à venir, clairement.
Oui, clairement. Alors là, je crois que le reportage est vrai. Et vous voyez, toujours, c'est complexe, hein, parce que les Espagnols, par exemple, ont mal vécu le fait que les agriculteurs français s'élevaient justement sur la qualité des produits espagnols, en disant mais on a les mêmes problèmes. Donc là, ce qui est important, à mon avis, c'est de voir ce que dit Christiane Lambert, et à mon avis, est juste en disant l'Europe dit il faut qu'on supporte l'Ukraine depuis effectivement l'entrée en guerre, on va dire l'invasion russe. Sauf qu'effectivement, l'Europe a peut-être cherché un peu trop à ne pas mettre directement de l'argent sur la table en disant bon bah alors on va peut-être pas tout mettre en liquide, en cash, mais on va vous faciliter l'entrée de vos marchandises en Europe. Et il se trouve, elle a raison, que l'élément premier que peut vendre l'Ukraine en Europe, et ce que dit la personne, le représentant polonais là à l'instant dans le reportage, en disant avant elle était dans plein de marchés du monde, évidemment avec la guerre elle peut plus. On lui offre la possibilité de vendre directement en Europe. Elle a dit, bah, ok, je me précipite là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que l'Europe, là, a des stratégies. On voit bien, comme on le disait au début de l'émission, en disant, finalement, si c'est que l'agriculture, c'est pas grave, on peut sacrifier. Sauf que là, évidemment, on a vu ce que ça signifie. C'est-à-dire, l'Ukraine, c'est le grenier à blé de l'Europe. C'est une terre incroyable en termes agricoles. Si ce géant rentre avec strictement aucune norme habituelle, évidemment, il vous déverse des quantités absolument astronomiques qui déséquilibrent tout le système agricole européen. Alors la question est, quand le président ukrainien dit on sent la limite de la solidarité, c'est dire oui, mais parce que en fait la solidarité, elle était un peu bizarre. Là, on disait bon bah pour pas payer, on va permettre que vous vendiez plus de poulet et de blé pendant le temps de la guerre. Mais effectivement, la guerre dure, on voit bien que c'est un système qui tient pas. C'est-à-dire l'Europe doit mettre beaucoup plus d'argent sur la table, et on est bien dans cette idée-là, ouais. Et doit bien réfléchir à ce que ça signifie de dire bah, si on ouvre complètement nos frontières à un producteur qui n'aura pas les normes européennes, il est évident que vous déséquilibrez tout le reste. Donc c'est la situation dans laquelle on est, où le géopolitique est en réalité la première question, et où l'agriculture, normalement, tout petit, 3% de PIB, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Le truc, on ne faisait pas vraiment attention jusque-là, c'est invité à la table de négociation à Bruxelles de façon très forte.
On va répondre à vos questions SMS. Jacques vous demande, inviter les soulèvements de la Terre, n'était-ce pas une grossière erreur de la part du président ?
Non.
Nathalie Saint-Christ.
Bah, alors, ils disent que, je ne sais pas s'ils les ont invités, pas invités vraiment, de prononcer le mot soulèvement de la Terre. Bah, bon, bref, bah, vous avez vu comment ça se termine.
Donc, oui, donc on vous le rappelle, donc ce débat est annulé demain.
Le débat est annulé et ça a fait un psychodrame pendant 24 heures.
C'est comme s'ils avaient invité L214 ou Boucherie Abolition, par exemple, pareil. Voilà, c'est la clochette qui excite les gens. Ça n'a pas de sens.
Bah, surtout quand soi-même, on veut le dissoudre. Enfin,
oui. Bah, oui.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même... C'est pas une opinion, le gouvernement a souhaité la dissolution des soulèvements de la Terre.
Ce qui d'ailleurs a été retoqué, c'est vraiment qu'on considère que ce ne sont pas des gens fréquentables.
Oui, il est reconnu comme co-responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Soline par la commission d'enquête parlementaire. Voilà. Enfin, voilà. On se dit quelque chose qui tourne pas rond.
Question Patrick. En pleine crise de l'agriculture, le président a réussi l'exploit de se fâcher avec la FNSEA. Chapeau l'artiste.
Est-ce qu'il est vraiment fâché ? Est-ce qu'ils se sont vraiment fâchés ? Parce que on comprend bien que finalement c'est une co-gestion hein, entre la FNSEA et les différents gouvernements, pas seulement Attal, Macron, mais aussi précédemment, hein, depuis les années 70, c'est une co-gestion. C'est effectivement l'adversaire facile, si je puis dire. Et là, pour l'instant, le salon de l'agriculture va se dérouler. Tout le monde montrera les muscles. C'est une façon de fonctionner et de dire qu'on est un syndicat quand même puissant et capable de monter au créneau. Et puis après, ça se calmera.
Je crois qu'il faut rappeler qu'on a, avec le mouvement agricole en France, mais d'ailleurs en Europe, tous les syndicats qui ont été débordés par la base, hein, quand même. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les syndicats n'ont pas vu venir véritablement un mouvement d'une ampleur pareille et aussi radicale. Et donc, c'est vrai que là, en réalité, à tous les niveaux, on va dire, de la chaîne de réflexion, on est là en train de dire, ah oui, mais en fait, les gens sont toujours pas contents.
Mais ça a commencé il y a bien longtemps. Tout le monde s'en fichait avec les infirmières, quand les syndicats d'infirmières ont été, et qu'il y a eu des coordinations. C'est, en gros, c'est des gens qui voulaient travailler en dehors, et les autres couraient derrière. Et là, c'est peut-être un espoir d'ailleurs, qu'il n'y ait pas des gens, que ce soit plus cette cojection, mais que ce ne soit pas juste un lobby qui s'intéresse à ses propres intérêts, qui ne sont pas forcément les mêmes que les agriculteurs qui ont des surfaces moyennes. C'est peut-être la chance de faire pression sur des choses qui les intéressent directement.
Chaque année, le Salon de l'agriculture prend un peu plus des allures de grands rendez-vous politiques. Pour quelles raisons ?
Parce qu'ils votent, puis parce qu'il faut s'afficher dans la psyché française. Un bon politique doit s'afficher avec les racines immémorielles de la France, qui sont la paysannerie. C'est du théâtre, c'est que l'affichage.
Et puis on peut comprendre aussi que si vous voyez une image... avec un homme politique, il cherche beaucoup de choses pour se faire aimer. Avec une vache, avec un mouton, avec un agneau.
Mignon.
Si vous avez un leader politique qui porte un agneau dans les bras...
C'est plus efficace que des images de petits chats.
Je ne sais pas. Imaginez que le président n'y aille pas. En fait, c'est surtout impossible de ne pas y aller, surtout.
Ouais. C'est ça.
Je crois que vraiment, de plus en plus, la question de qu'est-ce que je mange est devenue importante pour les Français. Hein, parce que c'est vraiment aussi cette idée de dire mais derrière, il y a ce que je mange, mes enfants. Et donc, finalement, les politiques se disent mais en fait, ça, c'est une question absolument majeure. Je ne peux pas me permettre de faire l'impasse.
Sauf qu'on n'en parle pas là. On parle de crise agricole, mais on ne parle pas de politique alimentaire. Il faudrait lier les deux. Parce que si on veut aider les agriculteurs, il faut aussi une autre politique alimentaire. Voilà, et les deux ne sont pas liés.
Et accessoirement, pour satisfaire certains jeunes, s'intéresser au bien-être animal, qui là aussi a été renvoyé par les Européens au calende grec.
Alexandre vous dit « L'agriculteur vend très peu cher et le consommateur paye cher. N'est-ce pas la preuve que certains s'enrichissent un peu trop ?»
Mais non, si, bien sûr que si. Je parle sous votre contrôle, l'agriculture, je crois, est le seul secteur économique dans lequel le producteur ne fixe pas son prix. Le prix, il le découvre quand son acheteur lui donne sa facture. Et entre les deux, bah, vous avez la grande distribution, les coopératives et l'industrie agroalimentaire.
On a entendu le producteur laitier tout à l'heure. C'était intéressant
sa démonstration.
Un seul interlocuteur. Donc voilà.
Et c'est pas moi qui facture.
C'est pas lui qui facture.
C'est
Lactalis qui lui donne sa facture. Ouais. Vous rendez compte ?
Je sais pas si c'est Lactalis, mais en tout cas, c'était.
Merci. Cette émission sera rediffusée sur France Info à 21h. Et nous, on se retrouve demain à 17h45 pour C'est dans l'air. Très bonne soirée.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.